de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie d'être à l'écoute du programme préparé par la rédaction française. À l'affiche, comme chaque samedi, l'actualité culturelle et littéraire. Aujourd'hui, nous consacrerons aussi une partie de l'émission à vos lettres, ce sera dans le courrier des auditeurs. La semaine dernière, Anna Kubishta a reçu dans Culture sans frontières l'écrivain Michael Olivier venu présenter à Prague son livre La vie en gros. Comme nous l'avons promis, nous accueillons aujourd'hui dans la rubrique culturelle la femme de Michael Olivier, l'écrivaine Viviane Moore. Connue pour ses polars historiques, Viviane Moore est venue elle aussi dans la capitale tchèque, une occasion pour Anna Kubishta de revenir sur son parcours.
Culture sans frontières.
Bonjour, comme vous le disiez Magda Hrozinková à l'instant, après Michael Olivier la semaine dernière, c'est au tour de Viviane Moore d'être l'invitée de Culture sans frontières. Accompagnant son compagnon à Prague pour la lecture scénique de La vie en gros, Viviane Moore a bien voulu répondre à nos questions. Auteure de dizaines de romans, notamment de polars médiévaux, mais aussi de romans pour enfants, elle est, comme elle le confie elle-même, une boulimique de littérature, que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'écrivaine. Alors comment lui est venu ce goût pour la littérature? C'est ce qu'elle nous a confié, on l'écoute.
Le goût pour la littérature remonte vraiment à l'enfance et remonte à, je dirais, un problème personnel qui était un problème d'asthme, puisque je suis une grande asthmatique. Et qu'en fait, les premières fois où j'ai commencé à raconter des histoires, c'était la nuit. C'était quand j'avais une dizaine d'années, je pouvais pas dormir, tout le monde dormait dans la maison. Et en fait, j'ai commencé à passer mes nuits dans la cuisine à écrire des petites histoires. Et en fait, tout a commencé comme ça. Alors, qui dit écrire, dit pas publier. Publier, ça a été plus tard et ça a été après le journalisme.
Alors justement, vous êtes l'auteur de polars historiques, de polars médiévaux notamment, qui mettent en scène alors deux personnages notamment. Vous avez d'autres ouvrages également, mais en tout cas, pour les plus connus, il y a Galran de Lesneven et Tancred le Normand. Alors avant juste de parler des personnages, pourquoi avoir situé vos romans au Moyen-Âge? Pourquoi le Moyen-Âge justement? Qu'est-ce qui vous séduit dans cette époque en particulier?
Je pense que ça vient là aussi de ma chambre d'enfant, puisque ma chambre d'enfant en fait était l'atelier de vitrail de ma mère, puisque ma mère était maître verrier et qu'elle restaurait des vitraux anciens, et que tout mon début de vie a été passé sous l'étape de montage sur un lit de camp. Quelque chose qui pourrait peut-être paraître dur à certains, mais qui était absolument merveilleux. Et c'est vrai que j'ai baigné dans une lumière qui était déjà une lumière très médiévale. Et par la suite, c'est vrai que j'ai exploré à peu près tous les châteaux, tous les lieux forts du Moyen-Âge en France. Et j'ai eu envie de les partager avec les lecteurs. Donc je les ai entraînés d'abord sur le domaine français et sur la France, même s'il y avait des interactions avec toute l'Europe. Et ensuite, l'idée a été de les emmener bien au-delà, vers la Méditerranée, avec Tancred le Normand.
D'ailleurs, à cette occasion, on réapprend finalement que les Normands ne sont pas cantonnés justement à faire des incursions en Normandie, mais qu'ils sont allés très loin finalement, puisqu'ils sont allés jusqu'en Italie, jusqu'en Sicile, jusqu'en Turquie. C'est des choses finalement qui sont peut-être moins connues, parce qu'on pense évidemment voilà à Normandie ou à Guillaume le Conquérant, mais ou voilà aux Vikings. Mais on pense pas qu'ils sont allés si loin.
Non, les Normands étaient fascinés par la Méditerranée. Ils sont même remontés jusqu'en Russie. Et c'est vrai que c'était intéressant de faire découvrir cet aspect-là d'un royaume qui a duré plusieurs siècles, qui a eu des aspects très guerriers, mais qui a eu aussi des aspects étonnamment, je dirais, précurseurs au niveau de la géographie, au niveau de plein de choses, puisque les rois normands comme Roger II de Sicile avaient auprès d'eux des géographes arabes comme Ali Drissi, et que du coup on avait une cartographie du monde qui a été faite pour les rois normands de Sicile. Première cartographie, premier grand planisphère, fait par un arabe, a été commandé par un roi normand de Sicile.
Dans ces deux cas de figure, de ces deux personnages, comment est-ce que vous êtes arrivé justement à vous intéresser à cette période? Est-ce que vous cherchiez une idée, vous êtes dit ah, j'ai envie d'écrire sur les Normands, ou alors finalement ça a été une étincelle autre?
Le Moyen Âge est très très vaste, et c'est vrai que le XIIe siècle était une période davantage, je dirais, pionnière, très ouverte. C'est le début du grand commerce avec les foires de Champagne qui n'hésitent pas justement à recevoir des marchandises qui viennent de la Baltique, qui viennent de Méditerranée, etc. Même des soieries qui viennent de Chine. Et c'est aussi une grande ouverture au niveau même juridique encore. Il y a plein de possibles. Il y a plein de possibles, et c'était cette chose-là, tant au niveau, je dirais, artistique, la statuaire de l'époque est fabuleuse, l'architecture est fabuleuse, les enluminures. Donc c'était ce côté pionnier, ce côté très libre qui m'a beaucoup plu dans le XIIe siècle et que j'ai voulu explorer davantage, ce qui ne veut pas dire que j'irai pas voir d'autres périodes par la suite. Mais c'est vrai,
il y a 1000 ans quand même, hein, de voilà, quasiment, voilà, enfin presque en tout cas,
oui,
à explorer.
Oui.
Et est-ce que finalement, est-ce que le Moyen-Âge aussi recèle, c'est une part de mystère d'une certaine manière en nous, puisque c'est une très longue période, très diverse, et qui pourtant a été longtemps oubliée, négligée, même dénigrée, hein, enfin, ne serait-ce que le terme Moyen-Âge n'est pas très flatteur. Est-ce que finalement, le fait de faire des polars au Moyen-Âge, il n'y a pas justement ce côté mystérieux qui aide finalement, qui donne une sorte de patine finalement à votre...
C'est très romanesque. De toute façon, le Moyen-Âge est fabuleusement romanesque. J'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Tout a un côté fabuleux, que ce soit le bestiaire de l'époque, la façon dont c'était perçu, la façon dont on percevait le paysage, le rapport de l'homme à son environnement... Tout était fabuleux, donc c'est vrai qu'on n'a qu'à prendre la plume et à plonger dedans.
Comment est-ce que vous comprenez finalement cet engouement récent? Alors vous écrivez depuis très longtemps. Comment est-ce que vous comprenez cet engouement récent pour les polars? Parce que franchement, je veux dire, quand on voit dans une librairie à l'heure actuelle, en tout cas en France, ça regorge de polars, entre Fred Vargas, la trilogie Millennium. Alors bon, c'est très différent de ce que vous faites aussi, mais c'est vraiment une explosion, je dirais, ces dernières années.
Mais c'est aussi parce que je crois que le polar est quelque part un des genres les plus proche de la vie. Alors on a le polar social, on a différentes sortes de polars, mais c'est vrai que c'est la tragédie. Le genre, la tragédie a disparu, mais le polar, c'est de la tragédie. Et je crois qu'on aime tous ça. On aime tous ce genre-là. On aime tous avoir des auteurs qui nous parlent de la vie, qu'elle soit passée, présente ou future. Donc c'est vrai que du coup, il y a quelque chose d'authentique, de moins trafiqué, je trouve, dans cette écriture-là. Et en tout cas, dans les vrais auteurs de polar, il y a quelque chose de tout à fait proche de la vie contemporaine.
Et est-ce que vous reconnaissez finalement dans une génération justement d'auteurs de polar ?
Je sais pas trop, parce que je crois que je suis un petit peu en marge, au sens où j'ai mélangé un genre, je crois, qui a disparu. C'est en tout cas ce que dit mon éditeur chez 10-18, ou un genre qui a quasiment disparu, avec le polar, au sens où on pourrait dire que je fais du roman d'aventure policier. J'étais enfant quelqu'un qui adorait les romans d'aventure, y compris Naval, y compris les Dumas, les Walter Scott... les Jules Verne et autres. Et c'est vrai que j'aime aussi cet aspect-là. Donc c'est du polar, oui, mais à côté de ça, il faut qu'il y ait cette puissance qu'il y avait dans le roman d'aventure. Et ça par contre, c'est vrai que c'est un genre qui s'est délayé, qu'on ne retrouve plus tellement, en tout cas dans des auteurs contemporains français.
Et vous-même, vous lisez des polars ?
Ah, moi, je lis énormément, oui. Je lis beaucoup de polars, mais je lis énormément. Je lis des essais, je lis énormément de choses. En fait, je suis boulimique de littérature, et je l'ai toujours été, puisque c'était là aussi, l'asthme a fait que, du coup, je dévorais aussi beaucoup, beaucoup de livres.
Juste pour terminer, donc, Galleron de Lesneven, c'est un cycle, Tancrède le Normand également. Est-ce que vous allez, ou est-ce que vous avez commencé un nouveau cycle avec également un personnage ou plusieurs personnages médiévaux?
Alors là, j'ai fait un livre, je dirais un grand format, qui va paraître chez 10-18, qui lui est seul. Donc là, on est en plus à cheval entre du contemporain et le passé, et pour le coup l'époque d'Henri IV. Donc c'est un drôle de livre puisque l'héroïne est une romancière dans un château qui existe en Normandie près de Cherbourg. Donc là on est vraiment aujourd'hui et maintenant, on est sur le travail d'écriture aussi, et cette romancière écrit sur un fait divers qui a existé à l'époque d'Henri IV et quelque chose qui va progressivement la dévorer. Donc là ça c'est le prochain, ça s'appellera Ainsi puis-je mourir, chez 10-18. Et après, effectivement, je vais lancer à nouveau une série médiévale, mais un petit peu plus récente, un peu plus tardive, je dirais, que le 12e siècle, et avec un sujet ambitieux, mais qui reste encore top secret.
C'était l'écrivaine Viviane Moore au micro d'Anna Kubeshta. Place maintenant à notre rubrique bimensuelle, le courrier des auditeurs. Avec Guillaume Narguet, nous reviendrons entre autres sur le concours 2011 de Radio Prague.
Courrier des auditeurs. Guillaume Narguet.
Dobriden, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette rubrique consacrée à vos messages en tout genre. La dernière émission du courrier, il y a 2 semaines de cela, avait été consacrée à la présentation des réponses des lauréats du concours 2011 de Radio Prague. Vous le savez donc, c'est un auditeur allemand qui en a été le grand vainqueur, et pour ce qui est des réponses reçues par la rédaction française, le jury a estimé que la meilleure réponse avait été celle envoyée par Frédéric et Hervé Briand depuis Talence en Gironde. Leur participation leur a valu de recevoir un prix un peu particulier et Frédéric et Hervé nous ont envoyé ce message suite à la réception de leur colis. Je cite. Le paquet en provenance de Prague est bien arrivé chez nous à Talence. Le récepteur radio et votre courrier nous ont fait un immense plaisir. Nous étions à l'écoute de l'émission du samedi 4 juin pour prendre connaissance des résultats et Alexis Rosenzweig nous avait bien fait comprendre que notre réponse vous avait plu. Ce nouveau récepteur agrandira ma collection d'une marque qui, d'après sa notice, est distribuée en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Hongrie. Superbe. Un seul petit regret, il est équipé des ondes courtes et je ne pourrai pas l'utiliser pour vous écouter. Mais peut-être qu'un jour, Radio Prague reviendra sur les ondes. Merci donc encore pour ce concours qui reste pour nous un moment important dans l'année radiophonique et qui toujours nous permet de découvrir ou d'approfondir une époque ou une particularité de la République tchèque. Nous espérons que les réponses étaient aussi nombreuses que les autres années et que le passage sur Internet ne vous a pas fait perdre trop de participants. Comme nous l'avons écrit dans notre dernier courriel, nous ne pourrons pas participer le 23 juin à la rencontre des auditeurs et nous le regrettons vivement. Bonne fin de semaine et très sincères amitiés tchécophiles. Autre message relatif au concours, celui de Madame Mélari Sofia depuis Constantine en Algérie. En remerciement, Mélari nous envoie le beau soleil de Constantine, mais avant cela, voici sa réponse au concours. Très cher Radio Prague, le théâtre tchécoslovaque qui a existé entre les deux guerres, était-il un théâtre libre ? Non, puisqu'on ne parlait qu'à voix basse. Les deux vedettes de ce théâtre étaient V plus W, Jan Verich et Irgi Voskovets, deux comédiens et comiques les plus appréciés. Spécialiste du théâtre tchèque, Daniel Montmartre a fait son doctorat sur ce thème. Le théâtre libéré était libéré de toutes les conventions. Le duo était composé de Verich et Voskovets, qui était le plus célèbre des deux. Ils étaient différents, mais se complétaient. Le théâtre d'avant-garde était très politique, dans une couverture satirique. Verich et Voskovets étaient très engagés. En 1933, ils ont notamment incarné Hitler dans leur œuvre théâtrale, ce qui suscita une réaction internationale. Hitler en personne avait demandé à retirer la pièce, mais Edward Beneš, ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait refusé de la retirer car elle ne faisait pas d'ombre à Hitler. Ce dernier a donc fait ressortir une loi de Metternich pour fermer le théâtre. En 1938, W plus V Velich et Voskovets partent aux États-Unis jusqu'en 1945. Comme ils ne pouvaient plus s'exprimer, ils ont choisi l'exil. Les deux hommes sont ensuite séparés par les événements. Après une période creuse, Velich reforme un autre duo avec Miroslav Hornicek, ce qui nous donne W plus H, mais l'amitié entre W plus V, Velich et Voskovets, a persisté et ils sont restés liés jusqu'à leur mort. Voilà mon résumé, j'espère qu'il vous plaira. Je vous passe le grand bonjour de Constantine. Bisous de Mélarie Sophia. Et après ce petit bisou de Mélarie Sophia, terminons avec ce court courriel de Thierry Monas. Je cite « Juste pour dire que j'aime Radio Prague, merci pour tout ». À notre tour donc de vous remercier aussi pour tous vos messages, même s'ils ne sont pas toujours cités. À bientôt.
Merci à Guillaume pour ce courrier des auditeurs. À la fin de notre programme, nous vous proposons une rencontre littéraire consacrée cette fois à une des grandes personnalités natives de Prague, Bertha von Suttner, née Bertha von Kinsky. Cette femme de lettres de langue allemande, dont les œuvres ont été traduites dans une quinzaine de langues, a marqué par sa plume la littérature mais aussi la politique de son temps. Ses activités pacifistes lui ont valu en 1905 le prix Nobel de la paix. Nous vous proposons d'écouter la rediffusion de l'émission que Václav Richter lui a consacrée en novembre 2005.
Rencontre littéraire. L'abolition de l'esclavage a été précédée par le livre d'une femme, Madame Beecher Stowe. « Pourvu que votre livre précède l'abolition de la guerre », a écrit Léon Tolstoï à Bertha von Suttner. Ce n'était pas une comparaison prise à la légère. Tandis que le livre « La maison de l'oncle Sam » de la romancière américaine Harriet Beecher Stowe a précipité le mouvement pour l'émancipation des Noirs d'Amérique, le roman « À bas les armes » de Bertha von Suttner allait déclencher le mouvement pour la paix. Le livre « À bas les armes » paraît en 1889 et connaît presque immédiatement un immense succès international. L'éditeur hésite d'abord et demande à Bertha von Suttner de changer ou de supprimer carrément certains passages, mais elle ne cède pas et réussira à défendre l'intégrité de son œuvre. Le livre paraîtra à Dresde, à Leipzig et à Vienne et sera traduit dans une quinzaine de langues. Rien qu'avant 1895, le roman sera publié en 12 éditions. Ce récit sur la vie d'une jeune femme, Martha, qui perd son jeune époux dans la guerre austro-italienne, est vendu à 2 millions d'exemplaires. Le public s'arrache le livre qui démontre l'horrible absurdité de la guerre à travers les sentiments de son héroïne. L'auteur de ce best-seller, qui ne cache pas ses intentions antimilitaristes, se voit propulsé au premier plan de la vie internationale et saura profiter de cette nouvelle popularité. En 1891, Bertha von Suttner prononce son premier grand discours public au troisième congrès international de la paix à Rome et devient le personnage central du mouvement pacifiste européen. C'est à son initiative que les organisations nationales se réunissent en Union internationale de la paix. Désormais, elle poursuivra avec une énergie inépuisable son œuvre pacifiste qui lui apportera en 1905 le prix Nobel de la paix. Jean-Paul Vienne, vice-président du mouvement de la paix d'Isère, dévoque les innombrables activités de cette femme.
On n'imagine plus son prestige. Avec une très grande lucidité, elle avait reconnu qu'on ne pouvait lutter efficacement contre la guerre qu'en s'attaquant à ses causes profondes, l'exploitation économique, l'oppression politique et toute forme d'injustice. Au centre de ses propositions, qu'elle répétait inlassablement, le désarmement et la création d'une cour d'arbitrage internationale pour régler tous les litiges entre les nations par le droit. Ces bêtes noires, l'empereur d'Allemagne, le très belliciste Guillaume II, le militarisme austro-hongrois, les nationalismes de toutes sortes, la course insensée aux armements et les fabricants et marchands de canons.
C'est probablement le trac qui a décidé de la vie de la comtesse Bertha von Kinsky, née à Prague en 1843. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle devienne cantatrice. Bien que son talent pour le chant soit évident, ses tentatives de chanter en public se soldent par des échecs, car elle a la gorge serrée par le trac. L'issue d'une grande famille aristocratique, elle ne possède aucune fortune personnelle, mais elle est riche de connaissances. Elle maîtrise parfaitement 4 langues et ses connaissances en littérature, philosophie, biologie, physique et chimie sont tout à fait exceptionnelles pour une femme du XIXe siècle. Comme les hommes n'aiment pas trop les femmes savantes, elle estime que cette large culture encyclopédique et sa liberté d'esprit la rendent inépousable. Mais quoi qu'elle fasse, le charme particulier de cette femme trop instruite et se qualifiant de bas bleu ne passera pas inaperçu chez les hommes, et le roman de sa vie sera aussi un roman d'amour. Ils seront plusieurs à tomber amoureux d'elle. Parmi ses prétendants, on trouve par exemple le fils d'un riche commerçant australien, mais aussi deux princes. Une idylle naît entre Bertha et le prince Héraclius de Géorgie, mais la liaison est rompue avant le mariage. Il semble que le bonheur guette la jeune femme lorsqu'elle fait la connaissance à Baden-Baden du prince Adolf Wittgenstein, chanteur d'opéra. Il part pour un engagement au Metropolitan Opera de New York et il invite Bertha aux États-Unis où il va l'épouser. Malheureusement, il meurt terrassé par un infarctus sur un bateau au milieu de l'Atlantique. C'est donc en devenant gouvernante dans la maison de la famille Suttner à Vienne que Bertha fait finalement connaissance de l'homme de sa vie. Le baron Arthur von Suttner, fils de famille, s'éprend de la charmante gouvernante, mais ses parents s'opposent à son intention d'épouser cette femme extravagante et sans fortune, qui en plus est de 7 ans son aînée. Il faudra beaucoup de persévérance et de courage avant que les deux amants parviennent à leur fin. Après un mariage clandestin, ils partent immédiatement en Géorgie, où ils resteront pendant 9 ans en gagnant leur vie par le journalisme et la littérature. Bertha se met à écrire. Elle donnera une 40aine d'ouvrages d'un niveau inégal qui peu à peu la feront connaître des lecteurs. Elle lui apporte finalement la gloire mondiale. Arthur restera le compagnon fidèle de Bertha, son complice et son collaborateur pendant tout le reste de sa vie. La mort le séparera de son épouse en 1902 à l'âge de 52 ans. Bertha, couverte d'honneur, vénérée par certains et décriée par d'autres, poursuivra son œuvre sans relâche jusqu'à la fin. Elle s'éteint en 1914, quelques semaines à peine, avant le début de la guerre mondiale qu'elle cherchait à éviter par tous les moyens. Impossible de résumer une vie aussi riche et aussi pleine d'événements dont les conséquences et les bienfaits se font sentir encore aujourd'hui. Jean-Paul Vienne.
On peut même dire qu'elle inventa le militantisme moderne, lequel repose sur une vision assez globale des problèmes. D'abord au sens où les valeurs qu'elle défendait avaient une portée universelle, donc planétaire. Ensuite, parce qu'elle reconnut très vite que toutes les causes sont liées. C'est ainsi qu'elle fut non seulement une grande pacifiste, elle a du reste inventé le concept, mais aussi une antiraciste, elle lutta notamment sans relâche contre l'antisémitisme, une anticolonialiste, une militante des droits de l'homme, et plus spécifiquement des droits de la femme. Elle avait sur l'éducation des jeunes filles des idées révolutionnaires dont la modernité peut étonner.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire dédiée à Bertha von Suttner que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et David Rada. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le magazine musical. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio.cz. Bonne fin de week-end, au revoir, nashledanou.
Radio Praga con